Nicolas Albert, vous êtes le fondateur du site et de la maison d'édition Fan Trippers, qui édite donc des guides afin de voyager dans les villes et de découvrir la ville via le prisme de la pop culture, que ce soit le cinéma, la musique ou la bande dessinée et les séries, bien entendu. Mais vous êtes aussi avec Fan Trippers, donc des prestataires pour le Festival International de la Bande Dessinée, où vous gérez la web TV et les réseaux sociaux. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation sur Euradio.
Merci de l'invitation.
Avec grand plaisir. D'ailleurs, on va parler bande dessinée 9e art. Effectivement, on vient de parler du Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême qui, cette année, c'est l'actualité, a été repoussé en vue de la pandémie, forcément, les conditions sanitaires n'étant pas assurées. Mais le festival étant le plus gros festival en Europe du 9e art, c'est-à-dire bande dessinée franco-belge, mais aussi manga et comics, on peut considérer qu'en Europe, il n'y a pas forcément de grandes différences entre chaque pays. Si par exemple on prend l'exemple de Black Sad, qui est une bande dessinée espagnole, Juan Diaz Canales et Guarnido qui travaillent dessus, comparé par exemple à Tintin, la plus grande licence franco-belge, belge tout du moins, sans doute, il n'y a pas de différence notable finalement entre l'Espagne et la Belgique pour prendre ces exemples-là.
En tout cas, c'est des bandes dessinées qui traversent le temps. Enfin, on le voit sur Tintin et puis on le voit aussi sur Black Sad. Effectivement, alors c'est complètement différent également parce que dans Black Sad, on est plutôt dans l'anthropomorphisme, alors que Tintin, on est vraiment dans un reporter réel qui est en prise avec son époque. Mais Black Sad raconte des histoires qui sont assez proches des films policiers que l'on connaît. Et puis d'ailleurs, en fait, même Juan Diaz Canales, le scénariste de Black Sad, a également écrit les scénarios des derniers Corto Maltese. Donc finalement, vous voyez, c'est presque une boucle dans la bande dessinée européenne, puisque Corto, à la base, est italien.
Oui, effectivement, hein, c'est tout un panel, finalement, qui se croise, puisque, voilà, en Espagne, en Italie, ou en Belgique, même en France, d'ailleurs, hein, finalement, eh bien, on voit pas forcément de différence notable, contrairement à ce que peuvent être la bande dessinée américaine ou la bande dessinée japonaise, donc le comics et le manga, qui, eux, par essence, ont des caractéristiques vraiment différentes, et qui, d'ailleurs, si on regarde un petit peu l'historique, le franco-belge donc a été le premier, j'ai envie de dire, à émerger à la fin du 19e siècle, très rapidement dépassé par les États-Unis, et aujourd'hui on a quand même l'impression que c'est le manga qui domine. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette observation là, qu'il y a un peu ce décalage là, et qu'en Europe, paradoxalement désormais, eh bien la BD franco-belge est peut-être reléguée en troisième place sur les trois grands courants du 9e art?
Alors, il y a une étude qui était sortie en 2020, en fait, qui démontrait qu'il y avait eu 53 millions d'exemplaires d'albums vendus en France, en tout cas sur l'Europe entière, je sais pas, mais on pense qu'on peut extrapoler, en tout cas. Et sur les 53 millions d'exemplaires, il y en avait 22,5 qui étaient du manga. Donc, il y a un marché qui est en plein essor, on le dit depuis des années. Enfin, vraiment, ça se développe énormément. Et ensuite, il y avait également, c'était la bande dessinée franco-belge et les comics qui avaient une bonne place. On sait que le nombre de comics vendus en France ont pratiquement doublé, ont plus que doublé même depuis 10 ans, mais j'ai plus vraiment en tête les chiffres exacts.
De toute manière, effectivement, hein, c'est ce que je disais sur ce point historique-là, c'est que dans les années 1930, effectivement, c'est là où a émergé vraiment le comics américain pendant la guerre, avec le premier Superman, forcément, pour l'histoire, qui était distribué, hein, vous n'allez pas me contredire là-dessus, aux soldats, et qui ensuite s'est répandu finalement dans la société, qui a été importé en Europe par la suite. Mais alors, justement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut en dire finalement de cette bande dessinée européenne, de cette bande dessinée franco-belge? Parce que oui, le terme franco-belge, si on fait un peu de sémantique, ça veut pas forcément dire grand chose. En Europe, ça ne s'arrête pas à la France et à la Belgique. On l'a dit, il y a plein de pays, justement, qui proposent de la bande dessinée.
Bien sûr, en fait, chaque pays a ses auteurs de bande dessinée. Et on le voit aujourd'hui, en fait, il y a de plus en plus d'albums qui sont vendus en France, en Belgique ou en Suisse, qui sont réalisés par des auteurs d'autres pays d'Europe. En fait, la bande dessinée, elle est vraiment universelle. Je sais pas si on peut parler de courant, en fait, par pays. Je pense qu'un auteur, par exemple, comme Miroslav Sekulic, qui est un auteur des Balkans, en fait, se vend très bien. Il y a une grande cote aussi en France. Des auteurs comme Manara, qui est italien, ou on parlait tout à l'heure d'Hugo Pratt avec Corto Maltès, et sont également des albums qui se vendent très 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 bien en France et qui sont même des superstars en France, ou même si on remonte au Royaume-Uni avec des auteurs comme Alan Moore là, qui pour le coup est un scénariste, mais qui en fait a inondé le monde en fait hein, de ses créations. Finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas simplement un courant, qu'il y a plusieurs tendances de la bande dessinée. C'est un peu comme le cinéma. Il y a vraiment différents courants et il n'y a pas forcément des spécificités de certains pays. Aujourd'hui, il y a même des auteurs français qui font du manga.
Oui, effectivement, le manga, on l'a dit, hein, qui vient vraiment en force. Et à noter aussi, pour prendre un autre exemple, Art Spiegelman, donc, qui est l'auteur de Maos, BD mondialement connu et extrêmement célèbre. D'ailleurs, vous allez peut-être pouvoir nous raconter un petit peu son historique. Lui, pour l'histoire, est donc né à Stockholm, en Suède, en 1948. Mais finalement, il a immigré aux États-Unis, il est devenu américain et il est plus représentant finalement des comics américains qu'il ne peut l'être du franco-belge ou de la BD européenne telle que sont ses origines suédoises finalement.
Oui, tout à fait. En fait, il a émigré quand il était enfant aux États-Unis et c'est un auteur, donc il a d'abord la nationalité américaine et c'est un auteur qui est vraiment associé à l'underground américain. C'est aussi le seul auteur de bande dessinée qui a reçu le prix Pulitzer en 1993 pour Maus, qui est vraiment un chef-d'œuvre où en fait il fait raconter à son père qui a connu les camps nazis l'Holocauste et dans cet album en fait les Juifs sont des souris, les Allemands sont des chats, mais surtout c'est vraiment un témoignage très fort à la fois de cette époque et des conséquences en fait pour les gens qui sont sortis des camps. C'est une conversation entre Spiegelman et son père qui date de la fin des années 70 et dans les années 80. Il a d'abord publié des planches de ses histoires dans différents fanzines au milieu des années 80, puis des comics, avant qu'il soit associé dans des recueils. C'est vraiment un album à découvrir absolument. Et c'est un auteur qui, effectivement, comme vous le disiez, est né en Europe, mais qui est surtout un auteur américain et qui finalement il s'est peut-être construit par ses différentes origines.
D'ailleurs, hein, pour Art Spiegelman, il a remporté aussi un prix que vous connaissez bien, le Grand Prix de la ville d'Angoulême lors du Festival international de la bande dessinée 2011. Est-ce que c'était pour Maos d'ailleurs ou est-ce que c'était pour l'ensemble de son œuvre ou toute autre chose ?
Alors, c'était pour l'ensemble de son œuvre, le Grand Prix du Festival d'Angoulême. En fait, sacre un auteur pour l'ensemble de son œuvre. Et c'est vrai que Art Spiegelman est connu pour Maus. Il est aussi, il a fait bien sûr d'autres albums, comme À l'ombre des tours mortes, en fait, où il s'interroge en fait sur les attentats du 11 septembre, en rendant hommage d'ailleurs à certaines planches de bande dessinée publiées aux États-Unis à travers les différentes époques. Et même, c'est vraiment un auteur universel et qui a vraiment marqué son époque et qui a influencé beaucoup d'autres auteurs.
Ça, en effet, c'est pour Art Spiegelman. Vous avez dit effectivement aussi que beaucoup d'auteurs francophones, en l'occurrence, qu'ils soient belges, français ou même canadiens, voilà, peu importe, s'imprégnaient beaucoup des courants étrangers que peuvent être le manga ou le comics. Mais inversement, est-ce qu'on a des exemples, peut-être, de japonais ou d'américains qui s'inspirent ou qui s'imprègnent vraiment de ce qui se fait en Europe et qu'on pourrait considérer comme BD franco-belge ou européenne, mais à la sauce américaine ou japonaise? Est-ce que le regard inverse finalement existe?
J'ai pas une réponse très précise sur le sujet. En tout cas, l'auteur français qui a le plus influencé des auteurs dans le monde entier, c'est Mobius, enfin Jean-Giraud Mobius, notamment avec tout ce qu'il a fait en science-fiction, comme par exemple L'Incal. C'est un auteur qui est cité par tout le monde, qui est cité aussi bien au Japon qu'aux États-Unis, mais c'est aussi presque un auteur universel à lui seul, parce qu'il a eu des expériences, notamment aux États-Unis, il a traversé différents pays, il a travaillé vraiment avec les plus grands, comme avec Miyazaki par exemple, au Japon. Oui, en fait, comme des auteurs d'autres pays influencent des auteurs européens, des auteurs européens vont aussi influencer d'autres auteurs, je pense à Enki Bilal aussi, notamment. En fait, c'est simplement l'histoire du monde. Aujourd'hui, on est vraiment dans une société où la culture voyage énormément et c'est tant mieux. Et chaque auteur va ensuite puiser des influences, ses propres influences, et c'est le cas dans tous les arts.
Parlons un petit peu aussi de Fan Trippers et de ces guides que j'ai évoqués tout à l'heure. Justement, vous avez fait plusieurs guides, que ce soit à Paris, à New York, à Londres, des cartes aussi sur pas mal de villes du monde entier. Aujourd'hui, quelle serait, selon vous, la ville où on retrouve peut-être, en Europe, que ce soit Paris ou Londres, par exemple, ou même New York, où l'on retrouve peut-être le plus de lieux à visiter en référence à la bande dessinée? On exclut Bruxelles, bien entendu, qui... Voilà, là, ne rentre pas du tout dans la même catégorie. Ça paraît évident que Bruxelles est associée au nom de la bande dessinée. Mais s'il y avait peut-être d'autres villes sur lesquelles vous n'avez pas encore travaillé?
Des villes comme Bruges, qui ont vraiment des spécificités, ou comme Venise, par exemple, pour aller vraiment à l'extrême et grossir le trait. Bruxelles, sur lesquelles on a travaillé, mais comme vous le disiez, c'est vraiment hors catégorie, parce que Bruxelles respire la bande dessinée. Et puis, il y a aussi d'autres influences, comme Amsterdam, par exemple, ou Berlin. Et puis, aujourd'hui, on est dans une société où le voyage se démocratise énormément. Les gens retirent des leçons de leurs propres expériences, des influences, et comme les gens sont de plus en plus nombreux à voyager dans des grandes villes, forcément les grandes villes deviennent des influences à part entière.
Et forcément, j'imagine que ça vous sert un petit peu si forcément il y a de plus en plus de voyages. Les gens pensent sans doute aux guides Fat Trippers pour aller à droite à gauche et découvrir les capitales du monde entier autrement. Est-ce que à ce niveau-là, pour extrapoler un petit peu sur votre activité, vous avez déjà quelques retours pour vous dire si c'est déjà peut-être positif ou s'il y a encore du travail à faire et finalement, que les gens sont demandeurs ou pas?
Alors, c'est à la fois positif et à la fois, il y a encore beaucoup de travail à faire. Nous, en tout cas, on est vraiment heureux quand les gens ont voyagé dans une ville, notamment avec nos guides ou nos cartes, et nous disent « bon, là, c'est super, j'ai pu découvrir certains endroits que j'avais vus dans un film, que j'avais lu dans un roman qui m'a beaucoup plu ». Nous, notre objectif, c'est vraiment de permettre aux gens de partir sur les traces de leur héros préféré, que ça soit des films, des séries, de la musique, des bandes dessinées ou des romans. Et là, quelque part, on va un petit peu retrouver sa Madeleine de Proust, des choses qui nous font vibrer. Et chacun a une émotion et un lien particulier avec une œuvre qu'il exprime de différentes manières, mais de pouvoir voir des lieux qui apparaissent dans cette œuvre, ça permet de prolonger un petit peu le voyage, et que ça soit le voyage physique comme le voyage spirituel.
Merci beaucoup Nicolas Albert. On rappelle que vous êtes le fondateur de la maison d'édition Fan Trippers, donc qui édite des guides et des cartes pour découvrir les villes du monde entier via le prisme de la pop culture, cinéma, séries télé ou bande dessinée, musique également, mais que vous travaillez aussi pour les réseaux sociaux et la web TV du Festival International de la BD d'Angoulême. Merci encore d'avoir accepté notre invitation sur Euradio.
Merci de l'invitation, Hugo.